Chapitre 6. La croix, sentier de liberté. Mohammed contre la croix. Lorsque nous nous intéressons au monde spirituel, il est fascinant de constater combien Mohammed haïssait les croix. Parmi les nombreuses traditions rapportées par Al-Waqidi, ce dernier mentionne que si jamais Mohammed trouvait un objet marqué d'une croix dans sa maison, il le détruisait sur le champ. La haine de Mohammed envers la croix alla même jusqu'à enseigner que Jésus reviendrait sur terre sous la forme d'un prophète de l'islam, brisant les croix et éliminant le christianisme de la surface de la terre. Narration d'Abu Huraira. L'apôtre d'Allah a dit « Par celui dans les mains duquel repose mon âme, assurément Jésus, le fils de Marie, descendra bientôt parmi vous pour apporter un jugement juste sur l'humanité, tel un juste dirigeant. Il brisera alors la croix et tuera les pourceaux, il n'y aura plus de jizya, de taxes perçues pour les non-musulmans. » Sahih al-Bukhari. The Book of the Stories of the Prophets. En d'autres mots, au retour de Christ, le troisième choix disparaîtra et les chrétiens devront se convertir ou être tués. La haine de Mohammed envers la croix est encore partagée aujourd'hui par plusieurs musulmans. Voici plusieurs faits historiques. Deux jours avant Noël, en 1998, un leader musulman enlève la croix d'une église catholique à Faisalabad, Pakistan. Le 18 mars 2004, en Arménie, une foule s'attaque à l'église Saint Andrew à Podujevo, au Kosovo, pour la dépouiller de ses images sacrées. Des photos distribuées à travers les médias internationaux montrent des musulmans grimpés sur le toit, occupés à faire tomber les différentes croix de fer forgé attachées aux pignons. De plus, on rapporte plusieurs incidents où des protestants musulmans s'en sont pris à des croix sur des pierres tombales des cimetières de Kosovo. En avril 2007, dans le quartier chrétien d'Al-Doura, à Bagdad, des militants musulmans ordonnent aux chrétiens d'enlever toutes les croix visibles sur les toits de leurs églises et ils émettent une fatwa interdisant aux chrétiens de porter des croix. Lorsque le Hamas prend le contrôle de Gaza en 2007, une milice anti-croix est formée pour éliminer systématiquement toutes les croix. Des commandos d'hommes masqués saccagèrent le couvent des Sœurs du Rosaire et plusieurs écoles chrétiennes de Gaza, visant particulièrement la destruction des croix et crucifixes. Un chrétien résidant à Gaza rapporta aussi qu'un haut dirigeant du Hamas lui arracha un crucifix qu'il portait au cou en lui mentionnant que c'était interdit. Le lundi 29 octobre 2007, au Parlement malaisien, le parlementaire Tuan Syed Hud bin Syed Edros se plaint de la présence de symboles religieux devant les églises et les écoles. Il est de mon devoir, en tant que personne responsable du maintien de ma race, de ma religion et pour le bien de mon pays, d'exprimer mon opinion et d'exiger la destruction de ces croix. En novembre 2004, la prison anglaise de Belmarsh doit prévoir une dépense de 1,6 million de livres sterling pour la construction d'une mosquée. L'établissement offrait déjà une chapelle dédiée à plusieurs religions, mais les prisonniers musulmans, dont plusieurs étaient emprisonnés à cause d'actes terroristes, refusèrent de l'utiliser, même si les musulmans avaient déjà recouvert les croix. En Angleterre, dans un autre incident impliquant le rejet de la croix, l'agent de circulation Mohammad Azawi s'est plaint de devoir porter l'emblème de la couronne britannique sur son uniforme qui arborait une croix de 5 mm de hauteur. Il enregistra une plainte au tribunal du travail de la police municipale pour discrimination raciale. Bien que la plainte fût retirée plus tard, la police proposa d'accorder une dispense à ceux qui refuseraient de porter l'insigne de la couronne britannique pour des motifs religieux. Le cardinal de Canterbury, George Carey, figure éminente du monde chrétien, accepta de se conformer à une demande visant à enlever son crucifix pectoral lorsque son avion dut faire un arrêt forcé en Arabie Saoudite en 1995. L'incident fut rapporté par David Skidmore dans The Episcopal News Service. Le vol de Carey, allant du Caire au Soudan, fit un arrêt forcé en Arabie Saoudite, à l'approche de la cité côtière de Jidda, Arabie Saoudite située sur les rives de la mer Rouge, on demanda à Carey d'enlever tout insigne religieux, incluant son collier romain et sa croix pectorale. La croix est rejetée par les musulmans, mais pour les chrétiens, elle représente la liberté. La croix, rejet et réconciliation. Pour le chrétien, le problème de l'homme est le péché, qui brise le lien avec Dieu et entrave les relations entre les humains. Le rejet est au cœur de cette déchirure. Adam et Ève, dans le jardin, ont rejeté les instructions de Dieu. Conséquemment, ils ont été écartés de sa présence et sont devenus assujettis à la malédiction liée à la chute. Dans l'histoire d'Israël, Dieu a fait une alliance avec Moïse pour établir une saine relation, mais son peuple l'a rejeté, s'est écarté de sa propre voie et a subi les conséquences du jugement. La clé pour sortir de l'impasse du rejet de l'homme par Dieu et de son jugement, c'est la croix. La soumission de Jésus à la croix, l'ultime objet du rejet, permet de le vaincre. Le pouvoir du rejet réside dans les réactions émotives qu'il produit dans le cœur de ceux qui sont rejetés. En absorbant la haine de ses assaillants, en donnant sa vie en sacrifice en rémission des péchés, Jésus a vaincu le pouvoir du rejet en le noyant dans l'amour. Cet amour illustré par Jésus n'était nul autre que l'amour de Dieu pour le monde qu'il a créé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Par sa mort à la croix, Jésus a pris sur lui le châtiment réservé à l'humanité pour avoir rejeté Dieu. La punition était la peine de mort que Christ a assumée, afin que quiconque croit en lui soit pardonné et reçoive la vie éternelle. En ce sens, Jésus a aussi vaincu le rejet en acceptant la condamnation qui lui était associée. La symbolique du sacrifice dans la Torah, où le sang versé efface le péché, est appliquée au sacrifice de Jésus sur la croix comme sacrifice ultime pour les chrétiens. Ce concept est exprimé par le prophète Ésaïe dans son hymne au Messie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53, 5 et 10 et 12. Aussi dans un passage significatif de la lettre écrite aux Romains, l'apôtre Paul explique comment le sacrifice de Jésus-Christ met un terme au rejet en nous garantissant son opposé, la réconciliation. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifierons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Romains 5, 6 à 11. Cette réconciliation a, de plus, enlevé tout droit de condamnation qui pourrait être évoqué par une tierce partie, incluant les hommes, les anges et les démons. Romains 8, 38. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 31 à 33 et 39. Qui plus est, les chrétiens se sont fait confier un ministère de réconciliation non seulement en étendant cette réconciliation envers les autres, mais aussi en proclamant le message de la croix et son pouvoir de détruire le rejet. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. La résurrection et la vengeance. Résurrection. Un thème persistant des révélations de Mohammed et de son enseignement reflète le désir de la vengeance. Il l'obtient pour lui-même en forçant ses ennemis à se plier à ses croyances, les obligeant à se soumettre à sa direction et à son autorité, ou bien à accepter la dimitude, le troisième choix étant la mort. Dans la compréhension chrétienne de la mission de Christ, il y a aussi la vengeance, mais elle n'est pas exercée par Christ pour lui-même. La souffrance du Messie avait pour but une humiliation volontaire de façon à pouvoir embrasser le rejet. La vengeance s'exprime par la résurrection et l'ascension de Christ par laquelle la mort et tout pouvoir qu'elle exerce est conquise. En disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Actes 2, 31 à 36. Un passage souvent cité de l'épître de Paul aux Philippiens décrit comment Jésus s'est humilié lui-même, adoptant volontairement le rôle d'esclave. Il fut capable d'obéir jusqu'à la mort. Cependant, Dieu l'éleva à une position d'autorité spirituelle suprême. Cette victoire ne peut être attribuée aux efforts du Christ, mais à la vengeance souveraine d'un Dieu qui s'est offert lui-même en sacrifice à la croix. Que chacun de vous, au lieu de voir à ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point considéré son égalité avec Dieu comme une proie à prendre, mais il s'est dépouillé lui-même sous la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Philippiens 2, 4 à 10. La discipline de la croix. Pour les chrétiens, suivre Jésus-Christ signifie s'identifier à sa mort et sa résurrection. Les chrétiens, tout comme Jésus, réfèrent constamment au besoin de mourir avec Christ, de faire mourir un style de vie et d'être né de nouveau, appelé à une nouvelle vie d'amour et de réconciliation, telle qu'enseignée par le Christ, cessant de vivre pour soi-même et vivant pour Dieu. Les souffrances vécues sont partagées avec celles de Christ, ce qui change le sens des épreuves. Elles deviennent plutôt un passage de la vie, l'évidence de la victoire et non de la défaite. En ce sens, Dieu s'occupera de venger ses fidèles sans les méthodes violentes de ce monde. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Marc 8, 34, 1 Jean 3, 14 à 16, 2 Corinthiens 5, 14 et 15, Hébreux 12, 1 et 2. Deux récits de rejet. Il est remarquable de constater, selon les témoignages connus à propos de Jésus et de Mohammed, les fondateurs des deux plus grandes religions au monde, que tous deux ont vécu de sévères expériences de rejet. Les circonstances entourant leur naissance et de leur enfance ainsi que leur déboire avec les membres de leur propre famille et les autorités religieuses en témoignent, tous deux ont été accusés d'être insensés ou sous une emprise démoniaque. Les deux furent sujets de moqueries et d'insultes abusives. Les deux furent menacés de mort. Toutefois, ces similitudes sont cependant affublées de différences remarquables qui ont eu un impact profond sur la façon dont les deux religions se sont développées. Alors que la vie de Mohammed témoigne d'une panoplie de réactions négatives dont l'homme est capable, incluant l'autorejet et l'agression, la vie de Jésus prend une tangente diamétralement opposée. Jésus surmonte le rejet non en l'imposant aux autres, mais en l'embrassant et ainsi, selon les croyances chrétiennes, en vainquant sa puissance et en guérissant les blessures qu'il cause. La vie de Mohammed reflète l'emprisonnement spirituel que représente l'héritage de la Dima, en opposition à la vie de Christ qui offre la liberté à ceux qui veulent être pleinement délivrés des effets de la dimitude. Une vision spirituelle du monde. Le Nouveau Testament apporta une nouvelle vision du monde. Paul, dans sa lettre aux Colossiens, fait part de sa prière à leur intention. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1, 12 et 13. D'après Paul, les êtres humains sont, par nature, sous l'emprise de Satan et de ses démons, mais par la foi en Christ, ils peuvent être libérés de toute emprise démoniaque. J. H. Holden, membre émérite du Oxford Trinity College, écrit à propos du monde tel que vu par Paul. Avait des convictions à propos de l'homme. Non seulement l'homme est-il pécheur et s'est-il volontairement aliéné Dieu, mais il est aussi asservi à des pouvoirs démoniaques qui harcèlent l'univers et qui utilisent la loi de Dieu, non pour initier l'homme à obéir à Dieu, mais comme instrument de tyrannie. Cette aliénation de l'homme envers Dieu est le trait commun de l'ensemble de l'humanité. Elle n'est ni purement juive, ni purement païenne. Elle représente la nature humaine à titre de descendant d'Adam. Paul's Letters from Prison, page 18. Holden ajoute que, selon le point de vue de Paul, les êtres humains doivent être sauvés de cet asservissement. En ce qui concerne les pouvoirs démoniaques, l'homme doit simplement se délivrer de leur contrôle. La clé de cette délivrance est de reconnaître ce que Christ a réalisé par sa mort et sa résurrection. Cet acte a eu raison du péché et des pouvoirs démoniaques qui asservissaient l'humanité. L'apôtre Jean écrit dans sa première lettre : « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » 1 Jean 5, 19. Si le monde entier est, par nature, sous le contrôle de la puissance des ténèbres de Satan, Colossiens 1, 13, comme Paul le mentionne, alors la vision islamique du monde, qui impose des souffrances inouïes à des communautés entières des siècles durant, doit être considérée non seulement au plan politique et social, mais aussi au plan spirituel comme une manifestation de la tyrannie du malin envers l'homme. Il est important de noter que l'institution qu'est l'Église n'est pas à l'abri d'actions démoniaques. Cette dernière a permis plusieurs interventions pernicieuses associées au rejet tels l'antisémitisme, le racisme et la misogynie. Vaincre le pouvoir du malin. Il est essentiel pour les chrétiens de se libérer des impacts pernicieux de la dimitude. Pour ce faire, il est primordial de confronter le pouvoir de Satan, l'ultime force spirituelle qui se cache derrière le rejet dans ce monde. Selon les évangiles et les lettres du Nouveau Testament, Satan a un pouvoir réel mais limité. Il est le prince de ce monde, Jean 12, 31, le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4, et le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2, 2. Il a pour royaume la puissance des ténèbres, Colossiens 1, 13. Il est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, 2. Lorsque Jésus se présente lui-même à Paul en vision et l'exhorte à aller vers les païens, l'apôtre est appelé à conduire les gens des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Acte 26, 18. Un appel qui indique clairement que les gens sont sous l'emprise du pouvoir de Satan avant d'être sauvés par Christ, passant du pouvoir des ténèbres au royaume de Dieu. Selon la Bible, il existe une véritable confrontation spirituelle entre Satan et Dieu. Elle donne lieu à une guerre cosmique, Marc 1, 15, Luc 10, 18, Éphésiens 6, 12. C'est un conflit entre deux royaumes où il n'existe aucun terrain neutre où se réfugier. L'issue de la bataille repose sur la croix et il n'y a aucun doute sur le vainqueur. Christ est et demeure victorieux pour toujours. En tant qu'agent de Christ, ceux qui décident de le suivre sont engagés dans une lutte quotidienne contre les puissances de ce siècle de ténèbres. La mort de Christ et sa résurrection est l'unique autorité capable de vaincre ces ténèbres. Elle est la source de la puissance permettant de lutter contre ces ténèbres. Le champ de bataille de cette guerre est constitué de personnes, de communautés, de sociétés et de nations. Comme institution, l'Église constitue également un champ de bataille où ses propres ressources peuvent aussi être utilisées à des fins ténébreuses. Si nous revenons à l'islam, et plus précisément à la conquête des aspects territoriaux reliés au pacte de la Dhimma et de la Shahada, nous constatons, d'une part, que ces pactes ont procuré aux musulmans un faux sens de supériorité en leur enseignant de devenir oppresseurs d'autrui. D'autre part, ils ont asservi les chrétiens et les non-musulmans à l'humiliation, à la fausse reconnaissance et au silence, en les soumettant à un pacte de mort. Éphésiens 6, 11 à 17. À propos de la certitude de la victoire, Paul écrit que les puissances de ce siècle de ténèbres ont été désarmées, honteusement défaites par la croix et le pardon des péchés. Nous qui étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair, il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a détruites en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 13 à 15. La Dhimma et la Shahada sont des codes écrits qui sont en opposition à une nature humaine partagée par tous. Les puissances spirituelles sur lesquelles s'appuient ces codes et leur contenu de haine et de rejet peuvent être anéanties en déclarant que la Dhimma et la Shahada sont effectivement clouées à la croix. Cette déclaration est appuyée par la mise en lumière des racines cachées dans ces pactes tel que je l'ai souligné dans l'ouvrage « The Third Choice ». Un aspect important du pouvoir de la Dhimma est le silence qu'elle impose envers les non-musulmans en exposant son caractère pernicieux. En la clouant à la croix, on la désarme et on lui enlève son pouvoir. En s'engageant spirituellement, les chrétiens sont en mesure de rejeter et de s'opposer fermement aux principes spirituels et aux puissances qui soutiennent le pacte de la Dhimma. Légalement autorisé. Une étape critique pour obtenir une complète liberté spirituelle consiste à renoncer à toute revendication spirituelle que Satan ait pu faire contre nous. Les engagements spirituels, même ceux pris par les générations précédentes, peuvent avoir un impact important sur notre capacité à vivre la liberté donnée par Christ. Satan se sert d'alliances et d'expériences traumatiques pour nous garder sous son joug. Pour comprendre l'importance de poser un acte de renonciation, il est nécessaire de discuter des droits qui ont été octroyés à Satan pour lui permettre d'opprimer les humains, incluant les portes d'entrée qu'il utilise pour attaquer et les endroits de l'âme où un individu risque de capituler face aux forces du mal. Paul réfère à cette possibilité pour un chrétien de donner accès au diable afin qu'il puisse implanter sa colère dans son être. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 26 et 27. Le mot grec traduit par « prendre pied » et « topos », soit un endroit. Le sens du mot implique d'habiter, d'occuper une place, ce qui équivaut à donner l'opportunité. Paul dit que si quelqu'un s'accroche à la colère plutôt que de la considérer comme péché et d'y renoncer, cette personne vient de capituler spirituellement. Elle offre au diable un endroit pour prendre pied et elle s'expose à être manipulée pour faire le mal. Dans Jean 14, 30, Jésus parle de droit lorsqu'il mentionne que Satan n'a aucune emprise sur lui. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Jean 14, 30, 31. L'archevêque J. H. Bernard commenta ce passage de Jésus. « Il n'y a aucune facette de ma personnalité où Satan puisse prendre pied. » A critical and exegetical commentary on the Gospel according to John, volume 2, page 556. Le vocabulaire utilisé implique un langage légaliste tel qu'expliqué par Carson. Le vocabulaire utilisé pour signifier « qu'il n'a rien en moi » rappelle la loi hébraïque qui utilise régulièrement la même expression dans un contexte légal pour signifier « qu'il n'a rien contre moi » ou « qu'il n'a rien sur ou envers moi ». Ce qui implique que le diable ne peut prendre pied contre Jésus s'il n'a aucune charge à porter contre lui. Jésus utilise le fait qu'il est sans péché. « J'agis selon l'ordre que le Père m'a donné » pour affirmer que Satan n'a aucune emprise légale sur lui. Ce concept revêt une importance capitale pour comprendre la croix, puisque Satan n'avait rien sur lequel s'appuyer pour justifier la mort à la croix. La mort du Seigneur, du Messie, représente le sacrifice d'un être totalement innocent effectué pour les autres, puisqu'il était sans l'ombre d'une accusation possible pouvant justifier la sentence de la part de Satan. Si Christ avait laissé du terrain à Satan, ce dernier aurait pu légalement justifier sa crucifixion comme paiement pour son péché. Au lieu de cela, son offrande consiste à payer la pénalité pour les péchés du monde entier. Fermez les portes. Lorsqu'on veut obtenir une liberté spirituelle complète, il est important et même nécessaire d'identifier le mal, puis de fermer les portes d'entrée et éliminer les endroits dans sa vie où le diable peut prendre pied. Pour fermer ces portes, la personne doit se repentir des mots, des vœux et des pactes qu'elle aurait pu prononcer pour autoriser Satan à s'immiscer dans sa vie. Cela implique une confession et une renonciation complète, en toute honnêteté, dans tous les endroits de l'âme où la personne aurait succombé aux mensonges du diable. La puissance de la croix est la clé de voûte de ce procédé. En recevant Christ comme sauveur, un individu reçoit le pardon de Dieu. En étant enseveli avec Christ, il s'identifie à lui et devient un contre Satan, qui ne peut alors porter aucune charge contre lui, ni avoir aucune emprise sur lui. Comment mettre cette réalité en pratique? Par exemple, si une personne a l'habitude de mentir continuellement, elle doit reconnaître que le mensonge est mauvais aux yeux de Dieu. Elle doit le confesser, se repentir et être convaincu du pardon complet grâce au sacrifice de Christ. Lorsque cette étape est franchie, la personne peut rejeter le mensonge et renoncer à l'acte de mentir. D'autre part, si elle affectionne le mensonge, qu'elle le trouve pratique et qu'elle n'a aucune intention de cesser de mentir, toute tentative d'être libérée du mensonge demeurera futile. Une âme blessée peut aussi offrir l'occasion au diable de prendre pied. Si quelqu'un vit dans la peur et que cette peur est le résultat d'un événement traumatique et terrifiant tel un assaut, il peut être nécessaire de prier pour la guérison du trauma avant de renoncer au sentiment de peur et d'affirmer sa confiance en Dieu. De plus, cette personne devrait être guidée dans un processus menant au pardon de celui qui lui a infligé le trauma. Par la suite, il sera beaucoup plus facile de résister au sentiment de peur. Alors que j'enseignais sur la dhimmitude, une femme originaire d'Afrique du Sud vint me rencontrer. 10 ans auparavant, elle avait vécu un événement traumatique impliquant des individus de confession musulmane. À la demande d'une école locale, sa famille avait offert l'hospitalité à 2 hommes. Ce fut le début d'une expérience extrêmement dure et dommageable. Les chambreurs étaient agressifs et se moquaient continuellement d'elle et de sa famille. Il la poussait contre le mur, la traitait de porc, la maudissait et allait même jusqu'à cracher sur elle au passage. Elle trouva même des petits morceaux de papier logés à différents endroits dans la maison qui contenaient des messages de malédiction contre sa famille, tous écrits en langue arabe. La famille demanda de l'aide à leur église, mais personne ne les croyait. En dernier recours, la seule façon dont ils purent se débarrasser de ces invités fut de leur louer un appartement. Cette femme écrit « À ce moment, nous étions financièrement, spirituellement, émotionnellement et physiquement drainés au fond du baril. Je ne croyais plus en moi, je me voyais comme bonne à rien puisqu'ils m'avaient traité comme une moins que rien. » Après avoir entendu la présentation sur la dhimmitude, elle confronta ses peurs et ses doutes à mon enseignement. Nous avons prié pour qu'elle guérisse et qu'elle renonce à l'intimidation. Elle fut entièrement guérie et elle dit « Je rends gloire à Dieu pour cet appointement divin. Je me sens soulagée et je suis maintenant capable de servir le Seigneur en tant que femme. Gloire à Dieu !» Elle m'écrivait plus tard « Nous servons toujours le Seigneur, nous l'aimons encore plus qu'avant, nous avons tellement appris à propos de la culture musulmane et de leurs croyances, nous sommes sortis encore plus forts de cette expérience et nous pouvons aujourd'hui dire que nous aimons sincèrement les musulmans de l'amour du Seigneur et nous ne cesserons jamais de leur montrer cet amour et de leur communiquer combien Jésus aime chacun d'eux. Il n'y a qu'un chemin vers la pleine liberté de l'oppression spirituelle, c'est la croix de Christ. Il y a certes des multitudes de portes et d'endroits où Satan peut prendre pied, mais ceux qui nous intéressent ici sont la Dhimma et la Shahada. C'est ce qui nous amène au prochain point qui est très important, les chemins intergénérationnels de l'oppression. Les chemins intergénérationnels. Bien que ce soit un sujet de controverse, on peut constater que certaines familles perpétuent les mêmes dommages d'une génération à l'autre. La plupart acceptent le fait que la génétique ou le contexte social influence à faire le bien ou le mal. Mais est-ce que les familles transmettent aussi un héritage spirituel? Il semble que ce soit le cas et que les portes de l'oppression puissent être intergénérationnelles. L'oppression spirituelle peut affecter plusieurs générations alors qu'une génération aveugle la prochaine, invitant le diable à influencer leur famille. Certains chrétiens réfutent complètement le concept de lien spirituel intergénérationnel et le trouvent même irrationnel. Ils vont plutôt associer les influences parentales aux actions des enfants. Par exemple, si le père est un menteur, les enfants peuvent apprendre à mentir. Si la mère maudit son enfant, ce dernier peut développer une pauvre image de soi. Il n'y a aucun doute que les comportements sont copiés et que les dommages causés par les abus des parents sur leurs enfants ont un impact intergénérationnel significatif. Dans ce sens, il est facile de dupliquer un péché d'une génération à l'autre. Toutefois, cette transmission ne peut expliquer l'ampleur des oppressions spirituelles qui affectent les personnes provenant de familles dotées d'un ténébreux passé spirituel. Pour moi, les évidences démontrant la présence de liens spirituels intergénérationnels ne font aucun doute. Le point de vue biblique concernant les alliances, les malédictions et les bénédictions vient appuyer cette interprétation. La Torah décrit les alliances de Dieu avec la nation d'Israël, décrivant un système de bénédictions et de malédictions qui s'appliquait aux Juifs et à leur descendance. Les bénédictions jusqu'à la 1000e génération et les malédictions jusqu'à la 3e ou 4e génération. Exode 20, 5, 34, 7. Qui plus est, pour qu'une génération soit délivrée des effets des péchés de leurs ancêtres, les personnes devaient confesser leurs péchés ainsi que les péchés de leurs pères. Lévitique 26, 40. Dieu dit alors qu'il se souviendra de l'ancienne alliance qu'il a faite avec leurs ancêtres et les guérira, eux et leurs terres. Lévitique 26, 45. Puisque Dieu traite les siens en tenant compte de la réalité intergénérationnelle, Satan ne peut-il pas clamer des droits intergénérationnels envers l'humanité? Certes, Satan est l'accusateur, celui qui accuse les frères jour et nuit devant Dieu, Apocalypse 12, 10, et celui qui peut clamer des droits intergénérationnels en vertu de l'alliance qui a été brisée avec Dieu. Par exemple, le péché d'Adam et Ève a relâché une malédiction intergénérationnelle contre tous leurs descendants, incluant la douleur de l'accouchement, Genèse 3, 16, la dominance de l'homme sur la femme, Genèse 3, 17 et 18, et ultimement, la mort et la dégradation de la terre, Genèse 3, 19. Les Écritures annoncent un changement dans la conduite des affaires. Dieu ne tiendra plus personne responsable des péchés de ses parents, mais chaque personne sera responsable de ses propres péchés. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur le méchant. Ézéchiel 18, 19 et 20. Ce passage peut être interprété comme une prophétie de l'ère messianique. Il ne s'agit pas d'un changement fondamental dans la façon dont ce monde fonctionne sous l'égide des règles de Satan, mais une promesse de ce qui est réservé à ceux qui se joignent au royaume du Fils de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une promesse de la nouvelle alliance. Dieu traitera chacun en fonction de ses propres péchés. De ce fait, Dieu enlève la possibilité pour Satan de lier les personnes au péché de leurs ancêtres par le pouvoir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. L'alliance de la loi du péché donnant la mort dit bien que le péché peut être transmis d'une génération à l'autre, mais en Christ, cette alliance permettant à Satan de lier un individu avec ses parents est écartée, rendue nulle et non avenue. Il est essentiel de comprendre que le pacte de la Dima est un double pacte, intergénérationnel et communautaire. C'est un pacte agréé par une communauté non musulmane qui s'applique jusqu'à la fin des temps. L'homme intègre ce pacte, cette alliance, en le ratifiant et en payant sa jizya au nom de sa femme, de ses enfants et de ses descendants. Dans la loi islamique, lorsqu'un territoire et ses habitants tombe sous contrôle islamique, il demeure à toujours propriété de l'Oumma, la nation islamique. En pratique, toute personne dont les ancêtres furent sujets à la Dima peuvent demeurer soumis à une oppression spirituelle jusqu'à la troisième ou quatrième génération. Exode 20, 5, 34, 7. Cet état de fait est en partie responsable de la peur et de la servitude psychologique envers l'islam qui peut être observé, appelé syndrome du Dhimmi, chez une ou deux générations suivant l'arrêt de la vie sous la Dhimma. Le pacte de la Shahada est aussi, de par sa formulation, un pacte intergénérationnel au sens où la loi islamique décrète que l'enfant d'un musulman est aussi musulman. Témoignage du renoncement à la Shahada. Renoncer à l'islam. Ce qui suit est le témoignage d'un musulman devenu chrétien. J'ai été élevé dans une famille musulmane dans les pays de l'Ouest. Nous allions à la mosquée et j'ai appris à dire les prières en arabe. Au-delà de cette simple participation, dans ma jeunesse, je n'étais pas vraiment religieux. Les choses ont changé lorsque je suis entré à l'université où j'ai connu une période de recherche spirituelle. À la fin de cette période, j'ai découvert Jésus-Christ, je l'ai accepté et il a sauvé mon âme. Je me suis alors impliqué dans un groupe d'étudiants chrétiens sur le campus. Chaque semaine, chacun devait partager un passage de la Bible. J'étais chrétien depuis moins d'un an lorsque les étudiants m'ont demandé de partager un message. Le soir où je devais partager, je me suis rendu dans l'une des bibliothèques sur le campus pour prier. Le titre de mon message était « Jésus est mort pour moi. Suis-je prêt à mourir pour lui ?» Au moment où je me suis mis à prier, quelque chose de très étrange s'est produit. J'ai senti un serrement sur ma gorge, comme si quelqu'un était en train de m'étrangler. Je fus saisi de panique alors que la sensation s'intensifiait sans cesse. J'ai alors entendu une voix qui m'a dit « Renonce à l'islam ! Renonce à l'islam !» Je crois que c'était le Seigneur. Au même moment, je me suis mis à relativiser la situation. « Seigneur, je n'ai jamais été dans l'islam ou même récemment dans sa pratique. » Toutefois, la sensation d'étranglement continuait jusqu'à ce que je dise « Je renonce à l'islam ». Tout cela se passait silencieusement puisque j'étais dans une bibliothèque. Mais immédiatement, la pression autour de mon cou se relâcha. Je fus inondé d'une grande paix. Je suis retourné en prière en vue de préparer la réunion. Durant ce rassemblement, le Seigneur s'est puissamment manifesté et je me souviens d'étudiants agenouillés ou face à terre, en larmes face au Seigneur, s'offrant eux-mêmes à lui. Faire des nouveaux croyants des disciples. Un ministère en Amérique du Nord offre des formations intensives pour les nouveaux croyants de provenance musulmane qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le coordonnateur des formations a remarqué que les participants rencontraient en général de nombreuses difficultés à devenir disciples. Ils ont pris connaissance des prières contenues dans cet ouvrage à propos de la renonciation à la Shahada et ils ont décidé, lors d'une de leurs séances, d'inviter tous les participants à utiliser cette prière pour renoncer collectivement à l'islam. La réponse fut unanime et tous les participants ressentirent un soulagement et une grande joie. Ils ont alors demandé « Pourquoi personne ne nous a expliqué qu'il fallait renoncer à l'islam ?» Nous aurions dû faire cela il y a longtemps. La renonciation à l'islam fait maintenant partie intégrante de cette formation et elle est perçue comme essentielle à la formation. Témoignage du renoncement à la dîma. Peur intergénérationnelle. Une femme avec laquelle je priais souffrait de peur chronique dans plusieurs aspects de sa vie. Ses ancêtres vivaient à Damas, en Syrie, en tant que dhimmi, lors du fameux génocide de chrétiens qui eut lieu en 1860. Alors que nous étions en prière pour renoncer au pacte de la dhimma, le pouvoir de la peur qui oppressait cette femme fut brisé. Elle fut instantanément libérée et elle trouva par la suite une liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant dans ses occupations quotidiennes. Libérée de l'héritage des génocides. Un homme d'héritage arménien avait des ancêtres qui ont survécu au génocide en adoptant des noms grecs et en s'évadant par la ville de Smyrne, en Turquie, en direction de l'Égypte. Presque un siècle plus tard, ce fils de réfugié souffrait d'une peur chronique qui l'opprimait chaque jour. Il ne pouvait quitter sa maison sans crise d'anxiété, en se demandant si sa maison était sécurisée, les portes verrouillées et les fenêtres fermées. Or, lorsqu'il renonça à la peur intergénérationnelle liée au trauma vécu par le génocide, il trouva une grande paix et une guérison spirituelle évidente marquée par un fort sentiment de liberté. De la peur à la hardiesse, la formation en évangélisation. En visitant un pays d'Europe à titre de touriste, un groupe de chrétiens de langue arabe a utilisé les prières contenues dans cet ouvrage pour préparer une rencontre avec des musulmans. Bien que le groupe se trouvait dans un pays libre, plusieurs ont avoué qu'ils avaient peur de partager leur foi. La discussion entourant cette préparation ouvrit leur cœur au besoin d'être guéri de la peur qu'ils ressentaient. Un des leaders du groupe expliqua « La peur vous habite à cause d'une alliance faite en votre nom. Après avoir expliqué les racines spirituelles du pacte de la Dima, il conduisit le groupe en prière pour que les personnes soient libérées et qu'elles renoncent au pacte de la Dima. Au dernier jour du programme, on distribua une évaluation aux participants. Les résultats sont incroyables. Sans exception, tous ceux qui ont suivi la formation ont affirmé qu'il s'agissait d'un sujet essentiel à la formation dans le ministère, en plus d'être une bénédiction et une source de grande liberté pour tous les participants, surtout ceux qui ont eu l'opportunité de renoncer au pacte de la Dima et de déclarer leur alliance avec Jésus par son sang. Gloire à Dieu qui, par la prière, libère de ce pacte par le sang de Jésus. Une chrétienne copte raconte comment elle obtint la force nécessaire pour évangéliser les musulmans. Dans le cadre de mes études en droit dans un pays islamique, ma majeure de 4 années porta sur l'étude de la loi islamique de la charia. J'étudiais en détail la dégradation des chrétiens sous la loi de la charia, incluant les règlements entourant la dima, mais quelque chose m'empêchait de percevoir l'impact qu'un tel enseignement avait sur moi-même, sur mon caractère. J'étais une chrétienne commise et aimant le Seigneur Jésus-Christ, mais à tout coup, je m'empêchais de déclarer ma foi en mon Seigneur devant mes amis musulmans de peur d'heurter leurs sentiments. Lors d'une présentation sur la dimitude, j'ai senti que ma condition spirituelle cachait de profondes frustrations. Je me suis souvenu de plusieurs situations où j'acceptais et même défendais la supériorité musulmane dans leurs conquêtes territoriales, dont les terres de mes ancêtres. Je pris conscience que, pendant des années, j'avais accepté de vivre dans la dégradation d'être un dhimmi. Je me suis alors mise en prière et j'ai instantanément expérimenté une grande liberté en Christ. Cette même nuit, je suis retournée à la maison et j'ai appelé une proche amie musulmane. Je lui ai dit que Jésus-Christ l'aimait profondément et qu'il était mort sur la croix pour elle. Depuis ce jour, mon ministère d'évangélisation auprès des musulmans est devenu très efficace et j'ai le privilège d'avoir vu plusieurs d'entre eux déclarer Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Les pactes de sang et leur renonciation. Comme nous l'avons vu, une autre importante clé conceptuelle réside dans le fait que la dhima est un pacte de sang. Dans les écrits hébraïques, la façon normale de sceller une alliance était le sacrifice du sang. Lorsque Dieu fait sa fameuse alliance avec Abraham dans Genèse 15, elle est entérinée par un sacrifice. Abraham apporte les animaux, les abats, les dépèces et place les deux moitiés des bêtes face à face sur le sol. Alors un feu ardent, représentant la présence et la participation de Dieu, passe entre les morceaux des animaux. Un tel rituel invoque une malédiction implicitement suggérée qui dit « Qu'il me soit fait ce qui a été fait à cet animal si je brise cette alliance, soit être tué et coupé en morceaux. » Cette position est reflétée sous forme d'avertissement par le prophète Jérémie. « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux, et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. » Jérémie 34, 18 à 20. Certains rituels d'initiation occulte, tels que pratiqués par la sorcellerie, prétendent pouvoir lier une personne en utilisant des sacrifices de sang. Pour d'autres groupes occultes, la mort est invoquée par une malédiction d'autodestruction. On se passe un nœud de pendaison autour du cou, on se couche dans un cercueil ou on se poignarde le cœur. La cérémonie islamique traditionnelle de la jizya comprend, au-delà du paiement réel de la taxe, un rituel de décapitation exprimé par un coup porté au cou du non-musulman, constituant ainsi un rituel de sang. Ce rituel invoque clairement une malédiction de mort que le dhimma s'impose à lui-même et à sa communauté en déclarant « que nous soyons tous décapités si je brise quelques conditions du pacte. Les pactes de sang, explicites ou implicites par le biais de malédictions prononcées, sont dangereux parce qu'ils ouvrent la porte à l'oppression spirituelle. Ils lient d'abord la personne aux conditions du pacte, puis ils accordent des permissions psychospirituelles qui permettent l'oppression en relation avec les malédictions invoquées par le pacte. Les manifestations qui émanent de ces permissions peuvent être surprenantes. Une femme provenant d'une famille de Dhimmi avait de fréquents cauchemars dans lesquels des membres décédés de sa famille l'imploraient de venir les rejoindre au pays des morts. Elle était aussi soumise à des pensées suicidaires totalement illogiques pour lesquelles elle n'avait aucune explication. En discutant et en priant, nous avons identifié que d'autres membres de sa famille avaient des cauchemars similaires à propos de morts qui les tourmentaient. J'ai appris que sa famille avait vécu sous la Dhimma pendant des générations. Nous avons donc prié contre cette peur et chassé le pouvoir de la mort, particulièrement les malédictions liées à la mort que ses ancêtres avaient dû effectuer lors du paiement annuel de la jizya. Suite à ces prières, la femme fut soulagée des cauchemars et de ses idées suicidaires. L'autorité à perdre. Pour atteindre la pleine liberté, il est nécessaire d'agir concrètement de façon à renoncer à tout engagement qui n'est pas de Dieu. L'Ancien Testament, où Dieu commande de détruire complètement les idoles et leurs lieux saints, suggère un modèle de moyen pour regagner le territoire occupé par les idoles spirituelles. Deutéronome 12, 1 à 3. Tout doit être complètement détruit, les places hautes, les sites sacrés, les objets des rituels, les autels ainsi que les idoles elles-mêmes. Quand des pactes ont été conclus, on doit les révoquer un par un, ainsi que toutes les conditions et conséquences. Cela doit être fait de façon méthodique. Tout comme la confession d'un péché qui doit normalement être spécifiquement identifié, il faut nommer spécifiquement l'objet pour lequel on clame la liberté spirituelle. Cette méthode fera briller la lumière de la vérité de Dieu dans tous les endroits qui demandent le pardon. Le principe d'être spécifique s'applique aussi aux pactes qui ne sont pas de Dieu. Par exemple, une personne qui s'est liée à un vœu de silence par un sacrifice de sang a besoin de se repentir et de renoncer à sa participation dans ce rituel. Plus spécifiquement, elle a besoin d'annuler les vœux qu'elle a prononcés par rituel. De même, quelqu'un qui combat la rancune et qui a prononcé des mots comme « Je ne lui pardonnerai jamais aussi longtemps que je vivrai » doit se repentir de ce vœu, renoncer à l'engagement qu'il représente et demander pardon à Dieu pour avoir énoncé ce vœu. Une victime d'abus sexuels qui a accepté de garder le silence et d'étouffer sa douleur jusqu'à la mort doit renoncer à son vœu de silence. Je renonce à mon silence à propos de ce qui a été perpétré contre moi et je réclame le droit d'en parler. Pour quelqu'un qui recherche la liberté des effets spirituels de la dhimmitude, il est nécessaire de renoncer au paiement de la jizya et au geste qui accompagne ce paiement, celui de se frapper le cou. Jésus lui-même a instruit ses disciples en leur disant qu'ils avaient le pouvoir de lier ou délier toute chose dans le ciel comme sur terre, ou plus précisément, dans le monde physique comme spirituel. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 18, 18, voire aussi 16, 19. Il est très réconfortant de savoir que les chrétiens ont l'autorité de briser des pactes et des vœux qui ne sont pas de Dieu, et ce, parce que le sang de Christ annule le pouvoir de tout pacte effectué pour faire le mal. Il s'agit ici d'une promesse aussi exprimée dans le passage messianique du livre de Zacharie. « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Zacharie 9, 11. Par la croix, Dieu nous annonce que la victoire est acquise sur l'ensemble des pouvoirs et des principautés de ce siècle. Colossiens 2, 13 à 15. Ce triomphe dépouille les pouvoirs démoniaques et les empêche de régner sur l'homme, et cela inclut le bris de tous les pactes et les alliances effectués de façon volontaire ou involontaire, de façon consciente ou inconsciente.